Bonjour et bienvenue à ce troisième tiers du cursus portant sur le design applicatif, dans lequel on aura vu déjà pas mal de choses, hein. Quelles sont les préoccupations, quelles sont les méthodes du design applicatif, quels sont les outils du designer. Et dans cette troisième partie, nous allons nous attaquer à une coquille applicative qui nous est fournie par mon collègue Jean-Sébastien Dupuis, que l'on va entièrement redesigner avec un outil qui s'appelle Blend pour Visual Studio 2015. On est parti!
Donc le design applicatif, tiers 3, crée votre prototype avec Blend pour Visual Studio. Donc, je me présente à nouveau, je suis Michel Rousseau, je suis évangéliste technique pour tout ce qui concerne l'expérience utilisateur et le design d'interface chez Microsoft France. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler dans ce dernier cours concernant le design applicatif, du layout et des maquettes. Réalisé sous Blend pour Visual Studio 2015. Alors Blend c'est quoi? Blend c'est un outil de conception applicative qui va vous permettre de mettre en place vos layouts. Par layout j'entends des dispositions dans lesquelles vous allez créer votre application. Une certaine manière de créer vos écrans qui vont permettre effectivement d'avoir une application qui fonctionne. Il permet d'intégrer des contrôles à l'intérieur de ce layout applicatif. Finalement de ce schéma dans lequel vous allez intégrer vos contrôles, tout ce qui fait le métier de votre application. Il permet donc de personnaliser également ces contrôles, il permet de tester sa solution et il permet de coder graphiquement son application en plusieurs langages. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de connaître les langages pour développer vos interfaces. En l'occurrence, Blend pour Visual Studio se présente comme ceci. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il ne va pas se présenter comme ça votre première visite, il va plutôt se présenter sous cette forme ici, comme ça. Il va être assez sombre. Moi, je trouve que pour éviter de se fatiguer trop la rétine, il vaut mieux un environnement clair. Donc, je vais dans Options, Environnement, Général, et je choisis un environnement clair. Voilà, c'est un peu plus sympa. Voici l'interface de Blend pour Visual Studio une fois qu'un projet est ouvert. On détecte plusieurs choses déjà. On détecte en haut une barre d'outils générale où vous allez retrouver toutes les options disponibles un peu ailleurs dans l'interface, mais surtout ces options de déploiement, ici notamment, qui permettent de déployer cette solution-là et de l'exécuter de plusieurs manières. Ici, on voit que c'est simulateur est sélectionné, c'est-à-dire qu'effectivement on peut disposer d'un certain nombre d'émulateurs de plateformes qui vont vous permettre de simuler différentes tailles d'écran, différents types de devices, y compris des téléphones ou des PC complets. Vous avez sur le côté des ressources. Les ressources, ce sont là où vous trouverez globalement votre boîte à outils générale, où vous aurez tous vos contrôles disponibles. Et tout ce que vous pourrez mettre dans votre application, vous pourrez le trouver dans Ressources, ici. Donc là, par exemple, on voit qu'on a des boutons, des cases à cocher, et ainsi de suite. Vous avez aussi un explorateur de solutions ici. Cet explorateur de solutions va vous permettre de naviguer à l'intérieur de votre application pour trouver les bons fichiers. Et en bas, nous voyons que nous avons un panneau qui s'appelle Objets et chronologie, qui est finalement une vue arborescente du contenu de votre page en cours d'édition. Par exemple, là nous voyons que nous sommes en train d'éditer, puisqu'il est surligné ici, un objet qui s'appelle UpSection, donc c'est un contrôle, qui lui-même se trouve dans un contrôle plus grand hub, qui lui-même se trouve dans une grille, qui lui-même se trouve dans une page. Nous voyons que nous éditons en XAML ici, et au centre, nous avons deux choses assez intéressantes. Un, votre visuel de l'application en cours d'édition. Et ici, votre barre d'application rapide où on voit que j'ai déjà certains contrôles qui vont nous être très utiles par la suite, des contrôles de layout, des contrôles d'action. Enfin, sur le côté droit de l'application, vous avez toutes les propriétés. Et en l'occurrence, là, on est en train d'attaquer le contrôle UpSection et je vois que ce UpSection il a comme couleur de fond une couleur grise Et effectivement, c'est ce contrôle-là que je suis en train d'attaquer, et il a bien la couleur de fond grise. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de Visual Studio. Sachant que effectivement, hein, il peut compiler ce que vous êtes en train de faire, donc c'est-à-dire exécuter le petit programme que vous êtes en train de régler, et il peut le faire via des simulateurs. Là, en l'occurrence, c'est un simulateur de tablette qui me permet de jouer mon application dans un contexte Windows complet, avec notamment la possibilité ici bah, de venir passer en mode touch émulé, de venir changer l'orientation de mon device et ainsi de suite. Donc vous avez vraiment de grosses capacités pour visualiser en temps réel les changements que vous apportez à votre application. Les langages avec Blend pour Visual Studio, donc ça on va pas y rester longtemps dans cette partie-là, c'est juste pour vous dire qu'il existe globalement deux grands types de langages pour développer des interfaces dans Blend pour Visual Studio. Le premier, c'est le HTML, associé à son petit copain le CSS, qui sont des langages qui nous viennent directement du web. Donc le HTML, c'est un langage descriptif basé sur des balises qui globalement décrit la structure d'un document. C'est-à-dire en haut, vous allez mettre le header, au milieu le contenu, dans ce contenu, vous allez mettre, je ne sais pas moi, des titres, en dessous du texte, et ainsi de suite. Donc ça ne décrit vraiment que la structure du document. Et le CSS qui lui vient décrire l'aspect de cette structure, l'aspect de certaines parties du document. Par exemple, le titre, je le veux dans une police qui fera telle taille et qui aura telle couleur. Donc on est vraiment dans un langage balisé, à savoir que là, par exemple, j'ai une balise de type A ouvrante. Cette balise de type A commence ici et finit ici. Donc cette balise A, ça veut dire que c'est un lien Internet, un raccourci Internet qui a déjà un style et une couleur jaune visiblement, et qui pointe vers l'adresse suivante, donc ma galerie sur behance.net, dans un contexte un peu particulier puisqu'elle va s'ouvrir, ce raccourci Internet, cette nouvelle page, va s'ouvrir dans une nouvelle page de votre navigateur. La balise se ferme ici et me laisse rentrer bah, finalement ce qui va pointer vers ce raccourci qui est My Portfolio. C'est du texte, My Portfolio. Et j'ai la balise fermante ici qui permet de dire, bah voilà, j'en ai fini avec ce raccourci Internet. Donc comment ça va se présenter dans ma page Internet? Je vais avoir quelque part My Portfolio dans la page qui sera écrit en jaune et qui pointera vers cette adresse Internet ici, dans une nouvelle fenêtre qui s'ouvrira à ce moment-là, quand je cliquerai dessus. Voilà comment ça marche. D'un autre côté, nous avons le XAML, qui est un langage qui est beaucoup plus proche de la plateforme Windows, qui est lui aussi un langage descriptif, basé lui aussi sur des balises, mais qui lui n'a pas besoin de fichiers additionnels, puisque ce qui concerne l'aspect des contrôles, les couleurs et ainsi de suite, tout ça est déjà à l'intérieur du langage. Alors comment ça se présente? Ça se présente là aussi sous forme d'une balise ouvrante ici. Donc là j'ai une grille. À l'intérieur de cette grille, j'aurai un bouton dont le petit nom interne c'est bouton et dont le label, la manière dont il sera affiché, marquera bouton et qui est aligné verticalement par le haut. Qui est aligné en haut de ma grille, donc de l'élément qu'il contient. Donc là aussi, quelque chose de très simple. Voilà, donc très très simple, pas besoin d'aller beaucoup plus loin en ce qui concerne les langages. Sachez simplement qu'il existe deux grandes familles de contrôles en XAML. Un des contrôles de layout, donc de placement, qui vont vous permettre de structurer votre page, qui n'ont pas d'action. On ne peut pas déclencher quelque chose en cliquant sur ces contrôles-là. C'est simplement pour placer vos différents éléments. Donc ces éléments de layout sont la grille, la stack panel et le canvas. On les étudiera un peu plus tard. Et on a aussi des contrôles d'action qui, eux, sont interactifs. Par exemple, les boutons, les sliders, les text box et ainsi de suite. On verra aussi comment les utiliser dans ce troisième tiers. Le projet. Donc là, on va commencer à s'attaquer au projet en lui-même et notamment à son prototypage. Parce que effectivement, quand Jean-Sébastien Dupuis m'envoie son projet, il ressemble ben, il ressemble à ça. Donc il s'exécute, c'est pas très beau, c'est assez, enfin l'espace est assez mal occupé ici, hein. Je vois que j'ai un grand espace vide. Bon, il manque des choses. Donc pour ça, je vais commencer par faire un petit peu d'expérience utilisateur et je vais commencer par vous poser deux, trois questions. Mon projet, est-ce qu'il est facile d'usage? Mes contrôles, est-ce qu'ils sont bien placés? Est-ce que c'est agréable visuellement? Et si une des réponses est non, bah comment améliorer l'un ou l'autre de ces aspects? Donc pour ça, je passe sur OneNote et je me note tout ce que je voudrais faire. Donc par exemple, améliorer le titre. Par exemple, centrer et améliorer ces parties-là. Mettre le chiffre en dessous, déplacer aussi mes boutons en dessous, quelle couleur, hein, ce genre de questions. Ensuite, je vais passer à la phase wireframe et storyboard, où je vais redéfinir finement l'emplacement des éléments, définir déjà les interactions et en faire des maquettes. Donc là, en l'occurrence, je commence par en faire un premier wireframe rapide, là aussi sous OneNote, où je commence à donner une couleur, une disposition. Et je commente. Ensuite, j'en fais une maquette sous PowerPoint, où là, je suis un peu plus formel, où je vais commencer à placer des contrôles qui ressemblent vraiment à des contrôles, et à formaliser vraiment l'emplacement. Et enfin, j'en fais une maquette sous Photoshop ou sous Illustrator, qui me permet de donner vraiment finement l'aspect des couleurs, l'aspect des polices, comment seront placés les différents éléments. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais l'intégrer dans Blend. Et pour ça, bah, rien de mieux que de sauter dans le bain et de passer directement dans Blend pour Visual Studio. Dans Blend pour Visual Studio, la première des choses à faire, c'est bien sûr d'ouvrir son projet. Alors là, j'ouvre un projet, je pointe à l'endroit où est stocké mon projet et j'ouvre le fichier .sln pour solution. Donc il me prépare la solution et la solution s'ouvre. Très bien, pour l'instant je ne vois pas grand-chose, c'est assez vide hein, pour être tout à fait honnête. Pour ça, alors je vais décaler un petit peu ça, je vois que je suis positionné sur une application C My Name par défaut, qui n'est pas vraiment ce que je veux, je ne sais pas trop ce que c'est que cette application. Pour autant, ce que je veux, c'est peut-être Nombreux Mystères WPF, qui correspond au projet de Jean-Sébastien Dupuis, que je pourrais ouvrir dans sa version WPF, donc comme une application qui s'exécute de manière native sur le desktop de Windows, ou peut-être sous forme d'application universelle, qui ait la capacité de déployer une application aussi bien sur Windows Phone que sur Windows PC ou sur d'autres plateformes, ou peut-être en version console. Voyons voir le mode console, juste pour pouvoir le compiler. Donc là, je vais faire démarrer, donc je lance le processus d'exécution. Il me génère le projet, et effectivement, il me lance l'application en mode console, donc il me dit saisir les chiffres, donc 10, C++. Donc là, vous voyez que ça fonctionne. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, et pour les besoins de la cause, pour que le cours reste assez simple, je vais ouvrir la solution nombremystère.wpf. Nombremystère.wpf, pour pouvoir l'éditer, il va falloir que j'accède au fichier XAML. Ça tombe bien, hein, on le voit, il est en dessous, il se trouve ici. Donc je double-clique dessus. Il m'ouvre le document, il me charge le concepteur. Voilà, j'ai bien l'application de Jean-Sébastien Dupuis qui remonte ici et pour laquelle je vais pouvoir éditer. Une fois que j'ai ouvert cette solution, je vais faire un petit peu d'espace à l'intérieur de ce bandeau ici pour ouvrir Objet et Chronologie. Et là, vous voyez que je décris mon interface complètement. Donc, je vois que j'ai une window. Windows, c'est la coquille applicative, à l'intérieur de laquelle j'ai une grille qui occupe tout l'espace qui lui est donné. À l'intérieur de cette grille, j'ai une stack panel qui occupe là aussi tout l'espace qui lui est donné. Et dans cette stack panel, j'ai mes différents contrôles d'action, comme les boutons valider une nouvelle partie. Alors commençons par le commencement avec le premier élément qui remonte, qui est Windows, qui est donc la coquille applicative dans laquelle s'exécute notre projet. Notamment qui contient les boutons fermer, redimensionner la fenêtre et le nom de l'appli. Donc là, je vais pouvoir bah peut-être commencer à éditer un certain nombre de choses. Et ce qui est sympa avec ce premier élément, c'est que je peux lui dire est-ce que tu te redimensionnes ou non? Donc là, je vais lui dire non, tu ne te redimensionnes pas. Je ne veux pas que l'application puisse se redimensionner. Et je vais lui donner une certaine taille. Par exemple, là, je vois que ça fait 525 par 5, par 350, ce qui est peut-être un petit peu petit. C'est-à-dire 525 par 525. Effectivement, mon application, tout de suite, a pris bah, quelques pixels vers le bas. Ensuite, je vais m'occuper peut-être du premier élément. Alors, ce premier élément, c'est un élément gris. Et quand il est écrit ici entre crochets, ça veut dire que son nom interne n'a pas été défini. J'aime bien quand les choses sont propres et organisées, moi, donc je vais aller commencer par changer son nom. Pour ça, je vais dans les propriétés de l'autre côté et je vais lui dire tu es la grille de base. Base. Vous voyez qu'automatiquement son nom a changé ici. Cette grille de base, elle dispose d'options de placement et de disposition qui lui sont intrinsèques. Je descends et je vais ici dans l'onglet Disposition et je vois qu'il y a déjà une hauteur et une largeur qui sont fixées sur Auto, mais que je pourrais très bien redéfinir. Par exemple, si je dis je veux une largeur de 120 pixels, j'ai tous mes éléments qui ne font plus que, qui sont rassemblés en fait dans 120 pixels, puisque tous les éléments qui sont en dessous sont contenus dans cet élément base. Donc pour revenir ici à une valeur plus traditionnelle, je vais cliquer ici sur ce bouton-là qui va me permettre de réinitialiser en auto, plutôt celui-là, celui qui est juste en dessous, en auto, les valeurs. Et automatiquement, mon application reprend l'intégralité de la fenêtre. Je vois aussi que mon élément est défini en stretch, stretch, et sur l'horizontale et sur le vertical, ça veut dire qu'il va occuper effectivement tout l'espace qui lui est donné, nonobstant le fait que ici je sois en auto. Et enfin, je vais pouvoir donner des marges à ces différents à cet élément-là. La marge, par exemple, va me permettre, si je mets une marge haute, ici, de dire je veux décaler mon élément avec une marge qui va faire 50 pixels. Et automatiquement, tous mes objets qui sont à l'intérieur de cette grille vont descendre de 50 pixels. Bon, c'est pas tellement ce que je veux pour l'instant. Je vais dire 0 pour recaler mes éléments. À l'intérieur de ce premier élément, j'ai une stack panel. Cette stack panel, c'est un élément de layout aussi, mais qui a une particularité, c'est qu'il empile les éléments les uns en dessous des autres. Par exemple, ici, j'ai le bouton Nouvelle partie. Si j'essaye de le déplacer, toc, automatiquement, quand je le relâche, il revient à sa position initiale. Pourquoi? Parce que c'est le fonctionnement de l'élément qu'il contient, donc de la stack panel, qui est empilé les éléments les uns en dessous des autres. Ce qui est très sympa, puisque ça me permet d'avoir quelque chose de très très ordonné, et on verra plus tard comment on peut modifier un petit peu tout ça. Et puis enfin, bah, j'ai tout mon modèle applicatif, mon bouton valider, ma zone de saisie pour les essais, le nombre d'essais déjà fait, les informations c'est moins c'est plus, et puis un pitch ici qui permet de savoir ce qu'on a à faire dans l'application. Bon, passons à la maquette que j'ai faite tout à l'heure sous Photoshop. Je vois qu'il va falloir tendre vers ça. Et on va commencer par éditer le premier élément qui est ici, qui concerne le logo de l'application, hein, son titre qui va remonter tout en haut. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on va avoir besoin bah, d'une couleur particulière, hein, qui est un magenta. On va avoir besoin de deux bandes ici et d'un texte. Alors je vais déjà sélectionner la couleur. Donc je viens avec l'outil pipette de Photoshop qui est ici. Je viens sélectionner cet outil pour choisir ma couleur. Et cette couleur, je viens la sélectionner dans le cadran couleur ici. Et je vois que cette couleur, elle a une valeur. Et c'est assez intéressant parce que cette valeur, je vais pouvoir la récupérer. Donc pour ça, je vais venir copier cette couleur ici, CTRL C, et je repasse sous Blend pour Visual Studio. Bon, le problème aussi, c'est que cet élément, pour l'instant, n'existe pas. Donc je vais créer un nouvel élément. Et pour ça, je vais créer un contrôle de placement de type grille. Pour ça, je vais venir me placer dans la barre d'action rapide qui est ici et sélectionner les éléments de placement. Et en l'occurrence, là, c'est une grille qui est sélectionnée par défaut. Donc, je viens sélectionner grille, je double-clique dessus. Alors, je me positionne d'abord dans Stack Panel et je double-clique sur grille. Comme ça, automatiquement, il me place ma grille comme étant le dernier élément de ma Stack Panel. On a vu qu'il fallait que je lui donne un aspect un petit peu violet, magenta. Donc, je vais aller dans les options sur le côté droit. Et là, je vois que par défaut, une grille arrive sans pinceau de background, de couleur de fond. Donc, je vais lui dire, choisis-moi une couleur. Par défaut, c'est noir. Et cette couleur, je vais lui donner la valeur que j'ai récupérée dans Photoshop. CTRL V. Très bien, c'est la bonne couleur. Ensuite, je vais dire est-ce que c'est la bonne taille finalement d'objet. Là, par défaut, ça fait 100. On va dire que je veux plutôt quelque chose de 90 pixels de haut. Très bien, ça me convient. On a la bonne couleur. Il y a peut-être juste quelque chose à faire au niveau de ce contrôle, c'est-à-dire cette couleur, je ne vais pas aller la chercher à chaque fois, surtout que je vais en avoir besoin dans d'autres contrôles, hein, notamment au niveau de ce bouton et au niveau de son label, donc j'aurai peut-être besoin de la stocker d'une manière définitive dans l'application. Pour ça, je vais la convertir en ressource avec ce bouton-là. Ce bouton-là, quand je clique dessus, va me permettre de dire, bah, voilà, définis le nom de ta couleur, on va dire magenta, et tu la stockes dans l'application, dans le document, on va dire dans le document. Voilà, elle est stockée maintenant sous forme de ressources statiques à l'intérieur de ma page. Bon, la grille, elle n'est pas très bien placée là. Elle est dernier élément de mon stack panel. Donc je vais simplement la décaler et le fait de changer son ordre de présentation va changer sa disposition. Je vais la mettre au plus haut et automatiquement, vous voyez qu'elle est dockée tout en haut de ma stack panel. Super, j'ai plus qu'à lui donner un nom et je vais l'appeler logo. À l'intérieur de son contrôle de placement, tout comme j'ai une grille ici qui contient une stack panel, à l'intérieur de cette grille logo, je peux très bien mettre d'autres éléments. Par exemple, je pourrais dire je veux effectivement créer mon élément de texte qui est ici. Allez, faisons ça dans Blend pour Visual Studio. Donc pour ça, nous allons créer des formes vectorielles qui sont disponibles ici dans la barre d'accès rapide. Ils sont ici. Donc nous allons créer une première forme vectorielle ici. Donc je me place dans mon élément logo et je double-clique. Je vois qu'effectivement il me crée une première forme vectorielle. Donc effectivement il va me falloir une forme vectorielle qui va être blanche. Donc, je sélectionne la couleur, je le mets sur blanc ici. Et je transforme cette couleur en ressource. Je vois aussi qu'elle dispose, pour ça il faut se rapprocher un petit peu, d'un contour en fait. Hein. Il y a un petit contour qui est affecté à mon objet et qui est noir. J'en veux pas de ce contour, il est ici stipulé sous le nom de Stroke. Je sélectionne Stroke et au lieu de lui donner une couleur, je vais lui dire bah, tu n'as aucun pinceau. Comme ça il devient transparent. Au niveau de ces options de placement, je vois que j'ai ici un placement qui est ancré à gauche, il y a une taille et qu'il occupe tout l'espace disponible sur la hauteur. Je vais revenir ici sur auto à largeur pour lui dire ma foi tu occupes un espace donné et tu occupes tout l'espace qui est disponible. Je vois que là il occupe effectivement tout l'espace. Il va falloir que je lui donne une taille verticale par contre, donc je vais dire 5 pixels. Voilà, j'ai ma barre blanche. Le seul problème, c'est qu'il aurait fallu que je la docke peut-être en bas pour que ça ressemble. Ce que je vois arriver, c'est que quand je vais créer ma barre jaune, il va falloir que je place les éléments relativement les uns par rapport aux autres. Ça va pas être génial. Pourquoi ça va pas être génial? Tout simplement parce que ce que je veux obtenir ici, c'est un empilement ici de mon texte, de ma barre blanche et de ma barre jaune. Et ça, c'est pas une grille qui me permet de l'avoir, c'est une stack panel. Donc la stack panel, il va falloir que je la crée. Mais ça va être embêtant puisque j'ai déjà créé ici une grille. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ici ma grille logo en autre chose. Pour ça, je la sélectionne et je viens faire un clic droit dessus. Et je vais dire modifier le type de disposition. Et je vais dire, bah, plutôt qu'une grille, je veux un stack panel. Automatiquement, ça m'a transformé mon objet en stack panel. Et je vois que mon rectangle blanc, il est venu se positionner en haut, comme ça doit le faire pour un stack panel. Très bien, je vais créer maintenant mon élément séparateur jaune. Donc je vais sélectionner mon rectangle blanc, je vais le renommer en séparateur blanc. Je vais faire un clic droit, copier, revenir dans ma stack panel et faire coller. J'ai bien mon objet qui a été dupliqué. Je vais l'appeler séparateur jaune. Très bien, il s'est docké en dessous. Je vais lui donner une épaisseur peut-être un peu plus importante. 12. Et je vais dire qu'il me faut le jaune. Alors le jaune, je vais pouvoir aller le prendre ici dans Photoshop. Je sélectionne mon jaune. CTRL C. Et ici, dans la couleur, je vais venir lui dire CTRL V, Entrée, et j'en crée une ressource Canary. Très bien, mais tout ça n'est toujours pas bien placé. Il va falloir que je mette par-dessus mon élément de texte ici, chiffre. Très bien, c'est ce que l'on va faire maintenant. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un contrôle d'action un petit peu différent. Dans la barre d'accès rapide ici, j'ai bien un élément texte qui remonte. Ça tombe plutôt bien parce que c'est celui-là dont je vais avoir besoin. Donc je me mets dans Logo. Je double-clique sur texte. Je vois qu'il m'a bien créé un élément texte ici, dont la couleur va pas être la bonne. Notamment l'écriture, je vais avoir besoin d'une autre couleur. Alors là, je suis en mode édition. Pour sortir du mode édition, je sélectionne un autre objet et je reviens dessus. Et je viens sélectionner ma couleur. Ma couleur, ce n'est pas une couleur directe que je veux, c'est une ressource. Le blanc que j'ai défini tout à l'heure. Très bien. Je veux quoi? Je veux que mon texte soit placé de l'autre côté. Donc pour ça, et qu'il soit écrit peut-être en un peu plus gros, donc je vais tout en bas dans texte, je vais sélectionner une police de caractère un peu plus grosse. C'est un peu trop gros. Voilà, ça c'est très bien. Je vais lui dire dans le paragraphe du texte, tu n'es pas ancré à gauche, tu es ancré à droite. Super. Et bah, pour te décoller un peu du bord, je vais te mettre une marge à ce contrôle, une marge de 15 pixels. Très bien, reste plus qu'à modifier le nom ici. Et ça, c'est un peu plus haut, c'est dans la partie commune de ce contrôle-là. Et je vais dire le chiffre. Très bien, j'ai mon nom, j'ai mon label. Il ne me reste plus qu'à changer l'ordre, hein, puisque celui-là, il doit passer au-dessus. Je sélectionne mon objet ici. Je l'attrape et je le place au-dessus. Mon label commence à être vraiment pas mal, sauf que je vois qu'il faudrait qu'il soit collé à la barre et un peu plus bas. Très bien, qu'à cela ne tienne, allons-y. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va rajouter une marge à mon élément. On va dire du haut, je vais donner une marge de 20 pixels, peut-être. Très bien. Et je vois que les éléments disparaissent. Et oui, parce qu'ils sont poussés par l'élément de texte. Hein, ils sont décalés par l'élément de texte, mais ils sont contraints par la largeur que j'ai donnée à ma stack panel. Donc pour ça, il va falloir que je fasse remonter séparateur blanc maintenant. Et ça, je vais jouer aussi sur les marges en disant, bah moi, je veux une marge négative. Donc je vais ici venir dire, je veux peut-être moins 10 pixels. On va tenter. Moins 10 pixels, ça suffit pas encore. On va dire moins 15 pixels. Ouais, encore un peu, on doit pouvoir y aller. Moins 18 pixels. Très bien, c'est ce que je vais obtenir. Je vais faire la même chose avec séparateur jaune. Moins 12. Moins 10, c'est un peu fort. C'est encore un peu fort. Voilà, ça fonctionne très très bien, c'est ce que je voulais obtenir. On a fini ce premier élément d'en-tête qui nous a permis de bien comprendre bah, comment on plaçait les éléments relativement les uns aux autres et qu'est-ce que c'était qu'un contrôle de placement et un contrôle d'action finalement. Donc ça, cet ensemble est fini. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec la petite flèche qui est sur le côté, je vais la replier et je vais la bloquer, la verrouiller en allant sur ce petit élément ici et en cliquant dessus. Automatiquement, je verrouille cet élément, je ne peux plus y accéder, je ne peux plus l'éditer. Super. On peut commencer à enregistrer la solution. Donc j'enregistre tout, comme ça, je conserve les modifications. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on voit qu'on a le pitch ici qui m'explique comment fonctionne l'application. Donc, pour ça, il va me falloir plusieurs choses. Il va me falloir effectivement deux lignes, du texte un petit peu grand, une petite marge sur le côté, et tout ça dans un environnement bleu. Voyons voir comment on fait ça dans Blend pour Visual Studio. Alors déjà, l'environnement bleu, je sais que tous ces éléments, ils sont inscrits dans ma grille de base. Cette grille de base, je vais pouvoir elle aussi l'éditer, notamment au niveau de son pinceau de couleur de fond. Je vais sélectionner une couleur que je n'ai pas encore, donc il faut que je retourne dans Photoshop. Je sélectionne ce bleu ici, CTRL-C pour le copier, CTRL-V ici. Très bien, j'ai bien mon bleu. Ce bleu, je le rentre en ressources pour pouvoir le retrouver plus tard. Donc j'ai modifié mon bleu, c'est très très bien. Je vais pouvoir m'attaquer à ce pitch ici. Et ça se présente sous la forme d'un text block qui me dit j'ai choisi un nombre entre 1 et 20, trouve-le. Alors, on a vu que ce n'était pas la bonne couleur. Donc je vais dans Foreground, je sélectionne une couleur dans mes ressources en blanc. Je vois que c'était pas le. Enfin, qu'il faut que je le décolle un petit peu du bord. Donc je viens donner une marge de 15 ici. Et je vois que ce n'était pas non plus la bonne police. On va venir donner une police un peu plus grande. C'est très bien, maintenant il faut que ça soit sur deux lignes. Et pour faire deux lignes, le mieux c'est peut-être que ici que je sélectionne cet élément, que je le copie et que je le recolle au niveau de ma stack panel. Je vois qu'il me le met tout à fait en dessous, donc pour ça je vais le déplacer. Je le mets juste à côté de son confrère et j'ai plus qu'à éditer le texte. Voilà. Et je vais éditer aussi le premier label ici. Voilà, j'ai bien mes deux éléments ici de texte, c'est très bien. Encore une fois, pour organiser un petit peu tout ça, je vais les sélectionner tous les deux. Donc je vais appuyer sur CTRL en sélectionnant le deuxième. Et je vais faire un clic droit dessus et dire que je vais les grouper dans une grille. Ça me permet d'organiser mon travail. Ça me permet d'avoir des blocs que je peux nommer. En l'occurrence, cette grille-là, je vais l'appeler Pitch. Ça me permet d'avoir des blocs que je peux effectivement facilement afficher, masquer, ou bloquer et débloquer. Donc là, le text block, je vais l'appeler ici pitch 1 et la seconde ligne pitch 2. Je referme ce panneau-là et je le bloque. Donc ensuite, il va falloir que je m'occupe de la partie suivante et comme je le vois dans ma maquette, la partie suivante, elle est un peu plus compliquée puisqu'au lieu que les éléments soient empilés les uns au-dessus des autres, c'est empilé les uns à côté des autres. Et pour ça, il va falloir que je fasse intervenir d'autres concepts et que je me fasse un premier proto sous OneNote. Donc en l'occurrence, je bascule vers OneNote et je vais pouvoir me faire un petit peu un petit schéma. Donc là, en l'occurrence, ce que l'on a, c'est qu'on a une application comme ça avec une stack panel qui empile les éléments. À l'intérieur, là, je pourrais dire, bah, il me faut finalement une autre stack panel à l'intérieur. Mais au lieu d'empiler les éléments les uns au-dessus des autres, comme ici, je vais les empiler les uns à côté des autres. Et à l'intérieur, je vais mettre mon premier label ici, empilé verticalement, donc peut-être une autre stack panel à l'intérieur de la stack panel. Et ici, une ellipse avec mon chiffre. Je ne suis pas persuadé que ça fonctionnera très très bien cette histoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une autre approche. Je vais conserver ma stack panel existante. À cet endroit-là, dans ma stack panel existante, je vais mettre une grille, mais cette grille, elle aura deux colonnes. C'est une des capacités des grilles, c'est qu'on peut en faire des colonnes et des lignes. Et dans cette première colonne, je vais mettre effectivement une stack panel avec ici mes deux éléments qui vont remonter, et dans l'autre colonne, je vais mettre une ellipse avec mon chiffre de saisie. Très bien, on va essayer de faire ça sous Blend pour Visual Studio. Donc je repasse dans Blend pour Visual Studio et je vais créer finalement dans ma stack panel une nouvelle grille. Donc je double-clique ici sur grille et pour les besoins de la cause, je vais pour l'instant le mettre un petit peu en sombre comme ça pour qu'on le voit bien. Donc cet élément là, il va avoir besoin de plusieurs choses immédiatement. Il va déjà avoir besoin d'être un petit peu plus haut, donc on va dire 150, 50, ouais c'est peut-être un petit peu fort, on va peut-être aller plutôt vers du 140, 140 c'est pas mal, et je vais avoir besoin de lui définir des colonnes. Alors pour ça c'est assez simple, il suffit simplement de passer son curseur en haut de l'élément grille. Et vous voyez qu'automatiquement, il me crée un petit taquet, et ce taquet va me permettre de définir mon endroit où commence la première colonne et où commence la seconde. Vous voyez qu'il me rajoute aussi des labels 1 étoile. Étoile, c'est pour dire que c'est relatif, que c'est pas fixé en dur. Et pour ça, comme là, je sais que j'ai une résolution qui est définitive dans mon application, je vais pouvoir ici passer mon élément non plus en flottant, mais en pixels. Et ici également. Très bien, mes éléments ont été définis en pixels, c'est nickel. Je vais pouvoir commencer à mettre mes objets à l'intérieur de ceci. J'ai dit que dans cette partie-là, il fallait que je prenne, pour respecter la maquette, les deux éléments d'information, globalement, le nombre d'essais et l'indice, et que je les mette de ce côté-là. On a dit que pour les empiler, le mieux c'était d'avoir une stack panel, donc très bien, faisons ça. Donc à l'intérieur de cette grille, que je vais appeler chiffre, je vais mettre une stack panel. Et une stack panel, je vais pouvoir l'accéder aussi par l'onglet d'outils rapides, ici. Et vous voyez qu'il y a une petite flèche, une petite fléchette sur le côté qui permet de dire il y a un peu plus derrière ce contrôle. Donc je clique et je maintiens appuyé. Et en maintenant appuyé, je peux sélectionner stack panel. Donc là j'ai bien une stack panel sélectionnée, je double-clique dessus et j'ai une stack panel qui se crée dans la première colonne. Alors attention, là il faut déjà distinguer un concept, c'est que, voire même deux, et pour ça je vais étendre un petit peu mon panneau pour l'instant. Un, c'est le colon span. Le colon span ici qui indique 1 indique que mon objet ne peut s'étendre qu'à travers une colonne. Si j'avais deux, ici, ça voudrait dire que mon objet peut dépasser d'une colonne vers une autre, sur deux colonnes, peut s'étendre à travers deux colonnes. Et il y a aussi le numéro de la colonne en cours, sur lequel mon objet est positionné. Donc là, en l'occurrence, mon objet ne se répand que sur une colonne, très bien, et il est dans la colonne 0. Oui, parce que pour Blend pour Visual Studio, la première colonne, c'est la colonne 0, ensuite colonne 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc là mon objet est bien placé, il y a seulement quelques petits soucis d'alignement. Un, parce qu'il a une taille ici, moi je voudrais qu'il occupe tout l'espace, donc en l'occurrence je vais le mettre en stretch, stretch. Je vais réinitialiser ici les valeurs et je vais réinitialiser avec le petit bouton qui se trouve ici. Je vais réinitialiser toutes les marges. Super, ma stack panel d'informations, donc on va dire info stack panel, ma stack panel d'informations occupe bien tout l'espace qui lui est donné, et à l'intérieur de celle-là je vais pouvoir lui glisser cet élément là et cet élément là. Je les sélectionne, je les déplace à l'intérieur de ma stack panel. Là il se passe plusieurs choses, et notamment le fait que ces objets là vont trop loin, on les voit, ils vont jusqu'au bout. Pourquoi ? Ça c'est certainement un problème de marge ici, qui est hérité du premier contrôle et qui n'est pas bon. Donc je sélectionne mes deux objets, je réinitialise mes marges. Super, ça fonctionne bien. Ce qui me gêne aussi, c'est que ces éléments devraient être écrits en blanc et devraient être centrés. Bon, alors écrit en blanc, c'est pas très dur. Je les sélectionne à nouveau tous les deux. Je vais peut-être changer aussi un petit peu la police, je vais me mettre en 12 points, et je vais venir changer le foreground en disant je veux une ressource de couleur de type blanc. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont également mal placés. Donc je redescends en bas, je vais dans mon paragraphe et je les aligne sur la droite. Ils sont peut-être un petit peu collés aussi près du bord. Donc je vais donner une petite marge de 15 pixels ici pour les décoller. Super, ça fonctionne pas mal. Reste plus qu'à centrer cet élément dans finalement ma première colonne. Et pour ça, je vais sélectionner directement tout mon contrôle stack panel et je vais lui dire que toi, au lieu d'occuper tout l'espace qui t'est donné en hauteur, tu es centré sur la hauteur. Voilà, il m'a centré mes éléments. Ça fonctionne bien. La maquette me dit quand même quelque chose d'un petit peu différent. Il me dit que ici, l'indice devrait être écrit en plus gros. Très bien, qu'à cela ne tienne, je sélectionne cet élément-là et je vais lui dire sa police de caractère, c'est du 16. Reste à s'occuper de ce qui va dans la deuxième partie, à savoir une ellipse, un rond, un cercle et le chiffre ici. Très bien, alors pour cette partie-là, on va créer une ellipse. Pour ça, il faut que je vienne me placer dans ma grille. Et vous vous souvenez tout à l'heure, hein, on a créé des rectangles avec cet élément-là. Bon, ben là, en l'occurrence, on va cliquer, maintenir cliqué, sélectionner ellipse. Et je double-clique sur ellipse. Par défaut, vous voyez que cette ellipse, elle est positionnée dans la colonne 0, ce qui n'est pas bon, il faudrait qu'elle soit placée dans la colonne 1. Quelle est une taille peut-être un petit peu plus grande, donc on va dire 140 par 140. Et vous voyez qu'ici j'ai un petit effet de bord. Mon élément est décalé. Ça a à voir avec cette marge ici qui est mal placée. Donc je vais venir ici sur le taquet et dire que je réinitialise mon objet. Je vais lui mettre une petite marge pour le décoller un peu du centre. Voilà. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est que par rapport à la maquette, c'est que mon objet était un peu transparent, hein, il n'était pas blanc à fond. Donc je remonte en haut. Je vais dire cette couleur, elle est très bien. Sauf qu'elle devrait peut-être pas être appliquée à 100%, elle devrait peut-être être appliquée à 30%. Voilà. Il me reste plus qu'à placer finalement cet élément-là, l'élément d'essai. Donc ça, je vais le placer tout en bas dans ma grille chiffres. Et là aussi, je vois que c'est un peu n'importe quoi, je vois pas mon objet, c'est un peu délicat. Là aussi, c'est certainement un problème de marge. Donc je réinitialise mes marges. Mon objet se place tout en bas, mal, puisque encore une fois, là, il n'est pas dans la bonne colonne, il devrait être dans la colonne 1. Et il ne devrait pas avoir un colon span de 2. Il ne devrait pas pouvoir se répandre à travers deux colonnes, mais à travers une seule. Voilà, très bien. Il ne me reste plus qu'à centrer mon élément verticalement. Voilà. Et puis lui donner une taille spécifique. Donc je vais dire en largeur, je vais dire 100. Et je vais dire 100 également en hauteur. Donc là, mon élément est bien positionné. Je vais aussi jouer avec la taille de la police de caractère. La seule petite chose, c'est que il n'est pas pile au niveau de mon cercle. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, jongler avec mes marges. Je vais dire ici peut-être une marge simplement de 10. Donc là, il ajoute en fait par rapport à l'élément centré. Donc c'est pas bon non plus. Ce que je vais dire, c'est que je veux me docker effectivement sur la gauche et je vais mettre une marge de 50. Ouais, c'est pas mal. 40, c'est mieux. On va dire 35. Voilà, là mon élément est centré. Ce que je vois aussi, c'est que par défaut, mon chiffre doit s'afficher sans le fond, sans le carré. Remontons tout en haut. On se rend compte qu'ici on a un background, donc ce background on va lui mettre la valeur 0, aucun pinceau. Qu'on a un border brush ici, une petite bordure que je ne veux pas, 0. Qu'on a un section brush qui ne m'intéresse pas, 0. Et par contre que la couleur de fond, ça ne doit pas être écrit en noir, ça doit être écrit en blanc. On enregistre. on sélectionne la grille de base pour lui enlever ce paramètre noir que l'on veut placer, ah, on se rend compte de quelque chose, c'est que mon ellipse avait un contour. On supprime ce contour. Et tout cet élément, l'élément chiffre, on le place bah, finalement sous le pitch. Alors bon, là je me rends compte que c'est peut-être un petit peu collé, donc je vais rajouter une petite marge en haut de l'élément, donc je vais rajouter une marge de 10 pixels, histoire qu'elle décolle un peu, et je vais pouvoir tester ma solution. Voilà. Donc là j'ai bien mon appli qui s'exécute. Quand je veux rentrer un chiffre, effectivement, je vois que je peux rentrer un chiffre. Vous voyez que il y a quand même des éléments qui sont mal alignés, c'est pas terrible, on va essayer de revoir ça. Mais si j'appuie sur valider, mon application continue à fonctionner et marche pour le coup très très bien. Bon alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que sur cet élément-là, mes éléments étaient mal centrés. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de lui dire, de lui donner une hauteur, je vais lui dire automatique. Auto. Et ça va me permettre de le régler avec la taille de la police. Donc on va dire plutôt une police de 60. Vous voyez que ça me donne vraiment l'aspect, même peut-être en dessous, 50, ça me donne vraiment la taille maximum que peut occuper la police. Et cette police, au lieu de l'avoir dockée à gauche, je vais lui dire tu seras centré. Je relance mon exécution. Là, je vais dire 20. Ah, effectivement, c'est nettement mieux. Je valide, c'est moins 10, c'est moins 5. C'est toujours moins 2, c'est gagné. Donc vous voyez que je ne casse rien à l'application, je la modifie simplement de manière graphique. Donc très bien, ceci est fini, la partie chiffre est finie, je la lock, il ne me reste plus qu'à m'attaquer au bouton. Et pour attaquer le bouton, il va falloir aller un petit peu plus loin. En l'occurrence, pour modifier le bouton, il va falloir que j'accède à ses sous-éléments, à son template, son gabarit, ce qui définit cet élément comme un bouton. Et là, on pourra aller plus loin dans la modification. Alors pour ça, je repasse dans Blend pour Visual Studio et je regarde un peu ce bouton. Ce bouton, effectivement, pourrait être édité de manière assez simple en changeant la couleur de son background, en changeant la couleur de sa police, en changeant son label, hein, si je voulais l'appeler autre chose que valider, en changeant sa taille, en lui donnant une taille, une hauteur donnée. Mais j'ai pas vraiment accès à l'aspect du bouton en lui-même. Surtout qu'il va falloir que je le modifie de manière assez drastique. Il va falloir qu'il ressemble à ça. Le label va aller sur le côté. J'ai une ellipse et j'ai un symbole ici. Bon, pour ça, je vais avoir besoin d'aller un petit peu plus loin dans la modification. Alors d'ores et déjà, je vais m'occuper bah, de la taille effectivement du bouton. On va dire 60 pixels de haut. Et puis on va dire peut-être 150. Ouais, c'est peut-être un petit peu court. On va dire 200 pixels. 200 pixels de long. Très bien. Donc ça me va au niveau à peu près de la zone que va occuper le bouton. Et maintenant je vais aller un peu plus en profondeur. Je vais aller en profondeur en faisant un clic droit dessus. Et en disant que je vais modifier le modèle de ce bouton en créant une copie. Modifier une copie. Je vais appeler ça bouton valider. Et là, mon fichage a un peu changé. Il a changé à deux niveaux. Il a changé déjà ici, où je vois que je suis plus dans la fenêtre principale, je suis dans le bouton valider, dans son style et dans son template. Donc je suis vraiment au niveau le plus bas des composants du bouton. Je vois aussi qu'ici, dans Objet et Chronologie, je ne suis plus dans la zone où j'ai tous mes contrôles, je suis vraiment dans mon bouton. Et je vois que mon bouton se compose d'un Content Presenter qui sert à afficher le nom du bouton, la propriété Content qui est héritée de la classe bouton. Ici, je vois que j'ai aussi une bordure, donc un objet qui contient mon Content Presenter qui est dans un template. Et j'ai aussi un bouton assez intéressant, c'est celui-là, qui va me permettre de revenir à la page dans laquelle j'étais précédemment, là où il y a le descriptif de toute l'arborescence de ma page. Bien, pour l'instant, ça me plaît pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous ces éléments pour entièrement les customiser. Effectivement, il n'y a plus de bouton. Le bouton existe toujours. On voit légèrement en survoyance qu'il existe toujours en tant qu'objet de placement, mais il n'y a plus rien dedans. Pour ça, je vais dire, bah, mon bouton, il va avoir besoin de quoi? Il va avoir besoin finalement d'une grille à deux colonnes, une pour mettre le label, une pour mettre l'ellipse, un peu comme j'ai fait au-dessus. Et à l'intérieur, je vais placer mes différents éléments. C'est parti, on va faire ça. Donc je me place dans le template. Je reviens ici pour créer une grille. Je double-clique dedans. La grille occupe tout l'espace qui lui est donné. C'est super. Cette grille, je vais lui donner, hop, une colonne que je vais placer en pixels. Très bien. À l'intérieur de cette deuxième colonne, je vais créer une ellipse. Une ellipse qui sera blanche, donc ressource de couleur blanc, qui aura une taille fixe, on avait dit, 70 par 70. Ah, je vois que ça dépasse. Si ça dépasse à ce niveau-là, c'est parce que au-dessus, mon bouton a été défini un peu trop petit. Donc, il va falloir que je remonte à un moment donné. Finissons de placer d'abord cet élément. Je vois qu'il n'est pas dans la bonne colonne. Il devrait être dans la colonne 1. Et sans marge. Donc là, je vois qu'effectivement, mon bouton, il est un petit peu court. Et j'ai mon élément qui dépasse en dessous. Donc pour ça, je vais revenir dans ma page, là où a été définie la taille du bouton. Bouton validé. Je vais dire 70 ici. Voilà, ça reprend son aspect. Pour retourner rapidement dans mon bouton, je peux venir effectivement ici sélectionner directement mon ellipse. Et je reviens directement sur mon ellipse à l'intérieur de mon bouton. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ensuite mon label, le nom du bouton. Et ça, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé du Content Presenter. C'est effectivement l'élément qui permet de présenter le nom du bouton qui est éditable au-dessus. Donc pour ça, je peux le faire de plusieurs manières, mais la manière la plus simple, c'est de revenir dans les ressources, la boîte à outils générale, là où j'ai tous mes contrôles disponibles, de venir ici dans Afficher tous, et de venir sélectionner Content Presenter, qui est ici. Je double-clique sur Content Presenter, automatiquement, ici, le nom du bouton a réapparu. Bon, seulement ce Content Presenter, il est peut-être un petit peu mal placé, notamment parce que je voudrais peut-être le centrer à l'intérieur de cette grille, donc on casse la tienne, allons faire ça. Je le centre verticalement, je réinitialise ses marges. Voilà, et il est toujours pas très très bien placé. Mais à ce niveau-là, je ne peux pas faire grand-chose de plus pour éditer ce bouton, puisque j'ai pas plus d'options, notamment, vous voyez, j'ai pas d'option de texte pour le placer. Pourquoi? Parce que ça s'édite au niveau de la page. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque finalement à faire cette coche. Donc pour faire ça, je pourrais utiliser des formes vectorielles comme j'ai fait pour le rectangle et l'ellipse, mais on va essayer d'être un peu plus malin, on va essayer de trouver ça dans une police de caractère. Pourquoi? Parce que certaines polices de caractère contiennent des symboles. Et ces symboles, je peux peut-être aller les chercher directement ici en disant je veux atteindre l'application table de caractère. Table de caractère me permet d'accéder à toutes les polices de caractère présentes sur mon système et notamment une police particulière qui s'appelle Segoe MDL2 A7. Segoe MDL2 A7 ne contient que ce qu'on appelle des glyphes, donc qui ne sont que des petits pictos. Et le premier de ces pictos qui remonte, c'est effectivement cette case à cocher. Donc je la sélectionne, voilà, et je la copie, CTRL-C. À l'intérieur de cet élément, je vais dire bah, qu'est-ce que je veux rajouter. Finalement, c'est un élément de texte. Je double-clique sur texte bloc. J'ai bien mon texte bloc qui remonte ici. Ce texte bloc, je désélectionne, je resélectionne. Qu'est-ce que je vais lui mettre dans son texte? Bah, CTRL-V, l'élément que je viens de sélectionner dans ma table de caractère. De quelle couleur? Couleur magenta. Dans quelle police? Dans Segoe MDL2A7. dans quelle taille? Je sais pas, on va dire 48. Ah là, je me suis un peu trompé, j'ai changé la couleur de background par la couleur de foreground. Donc on va sélectionner la couleur de foreground, qui est la couleur d'écriture, et la couleur de background, on va dire 0. Voilà, j'ai bien mon élément, sauf qu'il est toujours mal placé. Donc pour ça, il va aller dans la colonne 1, en étant centré verticalement et centré horizontalement. Voilà, j'ai pratiquement fini mon bouton. J'ai plus qu'à changer finalement l'aspect de ce label. Et comme je le disais précédemment, ça se trouve au niveau de la page. Donc je remonte ici avec ce bouton au niveau de ma page. Et je vais aller voir un petit peu ce bouton. Donc border brush, j'en ai pas besoin. Le background, j'en ai pas besoin. Et je vais aller changer la couleur du foreground, la couleur d'écriture de mon bouton, en allant piocher une ressource de couleur magenta, en venant dire ma police, je la veux un peu plus grande, 14, et je la veux dans son paragraphe. Et là, vous voyez que j'ai pas vraiment l'option pour venir la placer. Donc, qu'à cela ne tienne, je redescends dans le bouton, je vais sélectionner mon content presenter et je vais lui dire plutôt que d'être aligné au centre, ici, tu vas t'aligner plutôt à droite avec une petite marge pour le décoller. Voilà, je peux remonter au niveau de ma page. Mon bouton est fini. Il est plutôt bien placé. Il y aurait peut-être juste à dire, peut-être juste le décoller un peu de l'élément qui est juste au-dessus. Donc on va venir mettre une petite marge ici, en haut de 15 pixels. Il ne me reste plus qu'à créer le deuxième bouton et on en aura fini avec ce design applicatif. Donc pour ça, bah, je vais tout simplement dire, hein, puisque on le voit, hein, dans la maquette, les deux boutons ici sont assez proches l'un de l'autre. Hein, il y en a un qui est jaune au lieu d'être blanc, mais globalement c'est le même aspect. Donc pour ça, je vais pouvoir m'inspirer directement du premier et dire ce bouton nouvelle partie, je fais un clic droit dessus, je modifie son modèle, mais au lieu de modifier une copie pour l'instant, je vais appliquer la ressource bouton validé, celle que je viens d'éditer. Effectivement, vous voyez que mon bouton nouvelle partie ressemble à s'y méprendre au premier. Je vais réinitialiser un petit peu tous ces alignements. C'est pas mal. Je vais lui donner une taille. Je vais reprendre la taille qui était 200 par 70, qui était celle du premier bouton. Je vais peut-être le décaler un petit peu ici en disant je veux que tu sois docké sur la gauche avec une marge de 150 pixels, peut-être c'est un peu beaucoup, 100 pixels, voilà, comme ça il sera placé convenablement. Et maintenant je vais lui donner des caractéristiques qui lui sont propres, donc notamment en modifiant le modèle et bah, en modifiant une copie de celui-là en disant c'est le bouton nouvelle partie. Ce bouton nouvelle partie est composé d'une ellipse, mais cette ellipse devra être jaune. Est composé d'un content presenter, très bien, c'est nickel, et d'un text block qui devra lui être écrit en blanc, avec un glyphe un petit peu différent. Hein, on voit que le glyphe, c'est un signe de reload comme ça. Donc je retourne dans ma table de caractères et je vais chercher bah, ce glyphe qui est ici. Je le sélectionne, je le copie, CTRL-C, et je le repose ici, dans mon text block à ce niveau-là. CTRL-V. C'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à dire que l'ellipse était quand même un petit peu plus petite, donc on va lui donner une taille un petit peu différente. On va dire 50 par 50. Du coup, mon glyphe est plus bon, il va falloir que je lui donne une taille plus petite aussi. 4. Super. Je vois que je ne peux pas modifier plus mon bouton, donc je remonte au plus haut niveau en disant pas ici de background ni de border brush. Le foreground ici sera écrit en blanc, donc la couleur du bouton, ça sera du label, hein, ça sera ici du blanc. Et on a fini notre page applicative. Donc il ne reste plus qu'à enregistrer tout ceci et à tenter une compilation. Voilà, mon application fonctionne, elle a été entièrement redesignée. L'avantage, encore une fois, c'est que je n'ai fait qu'éditer les contrôles qui étaient existants sans rien modifier du fonctionnel. Donc là, on peut faire un test. 10, je valide. C'est plus, 15. C'est gagné, bravo. Donc l'application reste purement fonctionnelle. On a juste été attaquer les placements des objets, l'aspect des contrôles, et éventuellement le control template quand j'avais besoin d'avoir un petit peu plus d'action à l'intérieur d'un contrôle donné, quand j'ai besoin d'attaquer ces sous-éléments.
Voilà, ceci met fin au dernier tiers portant sur le cursus du design applicatif, dans lequel on aura vu quand même pas mal de choses. On aura vu ce qu'était le design interactif en lui-même, quelles sont les motivations, les interrogations et les outils d'un designer. Et puis enfin, comment intégrer une solution fonctionnelle qui vient d'un développeur et en faire une application qui soit designée, un peu plus sympa et un peu plus fonctionnelle. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. À bientôt!